Chapitre 8. Instinct. Les instincts peuvent se comparer aux habitudes, mais ils ont une origine différente. Gradation des instincts. Fourmis et pucerons. Variabilité des instincts. Instinct domestique, leur origine. Instinct naturel du coucou, de l'autruche et des abeilles parasites. Instinct esclavagiste des fourmis. L'abeille, son instinct constructeur. Les changements d'instinct et de conformation ne sont pas nécessairement simultanés. Difficulté de la théorie de la sélection naturelle appliquée aux instincts. Insectes neutres ou stériles. Résumé. Beaucoup d'instincts sont si étonnants que leur développement paraîtra sans doute au lecteur une difficulté suffisante pour renverser toute ma théorie. Je commence par constater que je n'ai pas plus l'intention de rechercher l'origine des facultés mentales que celle de la vie. Nous n'avons en effet à nous occuper que des diversités de l'instinct et des autres facultés mentales chez les animaux de la même classe. Je n'essaierai pas de définir l'instinct. Il serait aisé de démontrer qu'on comprend ordinairement sous ce terme plusieurs actes intellectuels distincts. Mais chacun sait ce que l'on entend lorsque l'on dit que c'est l'instinct qui pousse le coucou à émigrer et à déposer ses œufs dans les nids d'autres oiseaux. On regarde ordinairement comme instinctif un acte accompli par un animal, surtout lorsqu'il est jeune et sans expérience, ou un acte accompli par beaucoup d'individus de la même manière, sans qu'ils sachent en prévoir le but, alors que nous ne pourrions accomplir ce même acte qu'à l'aide de la réflexion et de la pratique. Mais je pourrais démontrer qu'aucun de ces caractères de l'instinct n'est universel, et que, selon l'expression de Pierre Hubert, on peut constater fréquemment, même chez les êtres peu élevés dans l'échelle de la nature, l'intervention d'une certaine dose de jugement ou de raison. Frédéric Cuvier et plusieurs des anciens métaphysiciens ont comparé l'instinct à l'habitude, comparaison qui, à mon avis, donne une notion exacte de l'état mental qui préside à l'exécution d'un acte instinctif, mais qui n'indique rien quant à son origine. Combien d'actes habituels n'exécutons-nous pas d'une façon inconsciente, souvent même contrairement à notre volonté? La volonté ou la raison peut cependant modifier ces actes. Les habitudes s'associent facilement avec d'autres, ainsi qu'avec certaines heures et avec certains états du corps. Une fois acquises, elles restent souvent constantes toute la vie. On pourrait encore signaler d'autres ressemblances entre les habitudes et l'instinct. De même que l'on récite sans y penser une chanson connue, de même une action instinctive, ensuite une autre comme par une sorte de rythme. Si l'on interrompt quelqu'un qui chante ou qui récite quelque chose par cœur, il lui faut ordinairement revenir en arrière pour reprendre le fil de la pensée. Pierre Hubert a observé le même fait chez une chenille qui construit un hamac très compliqué. Lorsqu'une chenille a conduit son hamac jusqu'au 6e étage, et qu'on la place dans un hamac construit seulement jusqu'au 3e étage, elle achève simplement les 4e, 5e et 6e étages de la construction. Mais si on enlève la chenille à un hamac achevé jusqu'au 3e étage, par exemple, et qu'on la place dans un autre achevé jusqu'au 6e, de manière à ce que la plus grande partie de son travail soit déjà faite, au lieu d'en tirer parti, elle semble embarrassée, et pour l'achever, paraît obligée de repartir du 3e étage où elle en était restée. Elle s'efforce ainsi de compléter un ouvrage déjà fait. Si nous supposons qu'un acte habituel devienne héréditaire, ce qui est souvent le cas, la ressemblance de ce qui était primitivement une habitude avec ce qui est actuellement un instinct est telle qu'on ne saurait les distinguer l'un de l'autre. Si Mozart, au lieu de jouer du clavecin à l'âge de 3 ans avec fort peu de pratique, avait joué un air sans avoir pratiqué du tout, on aurait pu dire qu'il jouait réellement par instinct. Mais ce serait une grave erreur de croire que la plupart des instincts ont été acquis par l'habitude dans une génération et transmis ensuite par hérédité aux générations suivantes. On peut clairement démontrer que les instincts les plus étonnants que nous connaissions, ceux de l'abeille et ceux de beaucoup de fourmis par exemple, ne peuvent pas avoir été acquis par l'habitude. Chacun admettra que les instincts sont, en ce qui concerne le bien-être de chaque espèce dans ses conditions actuelles d'existence, aussi important que la conformation physique. Or, il est tout au moins possible que, dans des milieux différents, de légères modifications de l'instinct puissent être avantageuses à une espèce. Il en résulte que, si l'on peut démontrer que les instincts varient si peu que ce soit, il n'y a aucune difficulté à admettre que la sélection naturelle puisse conserver et accumuler constamment les variations de l'instinct aussi longtemps qu'elles sont profitables aux individus. Telle est, selon moi, l'origine des instincts les plus merveilleux et les plus compliqués. Il a dû en être des instincts comme des modifications physiques du corps qui, déterminées et augmentées par l'habitude et l'usage, peuvent s'amoindrir et disparaître par le défaut d'usage. Quant aux effets de l'habitude, je leur attribue dans la plupart des cas une importance moindre qu'à ceux de la sélection naturelle de ce que nous pourrions appeler les variations spontanées de l'instinct, c'est-à-dire des variations produites par ces mêmes causes inconnues qui déterminent de légères déviations dans la conformation physique. La sélection naturelle ne peut produire aucun instinct complexe autrement que par l'accumulation lente et graduelle de nombreuses variations légères et cependant avantageuses. Nous devrions donc, comme pour la conformation physique, trouver dans la nature non les degrés transitoires eux-mêmes qui ont abouti à l'instinct complexe actuel, degrés qui ne pourraient se rencontrer que chez les ancêtres directs de chaque espèce, mais quelques vestiges de ces états transitoires dans les lignes collatérales de descendance. Tout au moins, devrions-nous pouvoir démontrer la possibilité de transition de cette sorte. Or, c'est en effet ce que nous pouvons faire. Et c'est seulement, il ne faut pas l'oublier, en Europe et dans l'Amérique du Nord, que les instincts des animaux ont été quelque peu observés. Nous n'avons, en outre, aucun renseignement sur les instincts des espèces éteintes. J'ai donc été très étonné de voir que nous puissions si fréquemment encore découvrir des transitions entre les instincts les plus simples et les plus compliqués. Les instincts peuvent se trouver modifiés par le fait qu'une même espèce a des instincts divers à diverses périodes de son existence, pendant différentes saisons ou selon les conditions où elle se trouve placée, etc. En pareil cas, la sélection naturelle peut conserver l'un ou l'autre de ces instincts. On rencontre en effet dans la nature des exemples de diversité d'instincts chez une même espèce. En outre, de même que pour la conformation physique, et d'après ma théorie, l'instinct propre à chaque espèce est utile à cette espèce et n'a jamais, autant que nous en pouvons juger, été donné à une espèce pour l'avantage exclusif d'autres espèces. Parmi les exemples que je connais d'un animal exécutant un acte dans le seul but apparent que cet acte profite à un autre animal, un des plus singuliers est celui des pucerons, qui cèdent volontairement aux fourmis la liqueur sucrée qu'ils excrètent. C'est Huber qui a observé le premier cette particularité, et l'effet suivant prouve que cet abandon est bien volontaire. Après avoir enlevé toutes les fourmis qui entouraient une douzaine de pucerons placés sur un plan de rumex, j'empêchais pendant quelques heures l'accès de nouvelles fourmis. Au bout de ce temps, convaincu que les pucerons devaient avoir besoin d'excréter, je les examinai à la loupe. Puis je cherchai avec un cheveu à les caresser et à les irriter comme le font les fourmis avec leurs antennes, sans qu'aucun d'eux excrétât quoi que ce soit. Je laissai alors arriver une fourmi qui, à la précipitation de ses mouvements, semblait consciente d'avoir fait une précieuse trouvaille. Elle se mit aussitôt à palper successivement avec ses antennes l'abdomen des différents pucerons. Chacun de ceux-ci, à ce contact, soulevait immédiatement son abdomen et excrétait une goutte limpide de liqueur sucrée que la fourmi absorbait avec avidité. Les pucerons les plus jeunes se comportaient de la même manière. L'acte était donc instinctif et non le résultat de l'expérience. Les pucerons, d'après les observations de Huber, ne manifestent certainement aucune antipathie pour les fourmis et, si celles-ci font défaut, ils finissent par émettre leurs sécrétions sans leur concours. Mais ce liquide étant très visqueux, il est probable qu'il est avantageux pour les pucerons d'en être débarrassés et que, par conséquent, ils n'excrètent pas pour le seul avantage des fourmis. Bien que nous n'ayons aucune preuve qu'un animal exécute un acte quel qu'il soit pour le bien particulier d'un autre animal, chacun cependant s'efforce de profiter des instincts d'autrui, de même que chacun essaie de profiter de la plus faible conformation physique des autres espèces. De même encore, on ne peut pas considérer certains instincts comme absolument parfaits. Mais de plus grands détails sur ce point et sur d'autres points analogues n'étant pas indispensables, nous ne nous en occuperons pas ici. Un certain degré de variation dans les instincts à l'état de nature et leur transmission par hérédité sont indispensables à l'action de la sélection naturelle. Je devrais donc donner autant d'exemples que possible, mais l'espace me manque. Je dois me contenter d'affirmer que les instincts varient certainement. Ainsi, L'instinct migrateur varie quant à sa direction et à son intensité et peut même se perdre totalement. Les nids d'oiseaux varient suivant l'emplacement où ils sont construits et suivant la nature et la température du pays habité, mais le plus souvent pour des causes qui nous sont complètement inconnues. Audubon a signalé quelques cas très remarquables de différences entre les nids d'une même espèce habitant le nord et le sud des États-Unis. Si l'instinct est variable, pourquoi l'abeille n'a-t-elle pas la faculté d'employer quelque autre matériel de construction lorsque la cire fait défaut? Mais quelle autre substance pourrait-elle employer? Je me suis assurée qu'elles peuvent façonner et utiliser la cire durcie avec du vermillon ou ramollie avec de l'axonge. Andrew Knight a observé que ces abeilles, au lieu de recueillir péniblement du propolis, utilisaient un ciment de cire et de térébenthine dont il avait recouvert des arbres dépouillés de leur écorce. On a récemment prouvé que les abeilles, au lieu de chercher le pollen dans les fleurs, se servent volontiers d'une substance fort différente, le gruau. La crainte d'un ennemi particulier est certainement une faculté instinctive, comme on peut le voir chez les jeunes oiseaux encore dans le nid, bien que l'expérience et la vue de la même crainte chez d'autres animaux tendent à augmenter cet instinct. J'ai démontré ailleurs que les divers animaux habitant les îles désertes n'acquièrent que peu à peu la crainte de l'homme. Nous pouvons observer ces faits en Angleterre même, où tous les gros oiseaux sont beaucoup plus sauvages que les petits, parce que les premiers ont toujours été les plus persécutés. C'est là, certainement, la véritable explication de ce fait. Car dans les îles inhabitées, les grands oiseaux ne sont pas plus craintifs que les petits. Et la pie, qui est si défiante en Angleterre, ne l'est pas en Norvège, non plus que la corneille mantelée en Égypte. On pourrait citer de nombreux faits prouvant que les facultés mentales des animaux de la même espèce varient beaucoup à l'état de nature. On a également des exemples d'habitudes étranges qui se présentent occasionnellement chez les animaux sauvages et qui, si elles étaient avantageuses à l'espèce, pourraient, grâce à la sélection naturelle, donner naissance à de nouveaux instincts. Je sens combien ces affirmations générales, non appuyées par les détails des faits eux-mêmes, doivent faire peu d'impression sur l'esprit du lecteur. Je dois malheureusement me contenter de répéter que je n'avance rien dont je ne possède les preuves absolues. Les changements d'habitude ou d'instinct se transmettent par hérédité chez les animaux domestiques. L'examen rapide de quelques cas observés chez les animaux domestiques nous permettra d'établir la possibilité ou même la probabilité de la transmission par hérédité des variations de l'instinct à l'état de nature. Nous pourrons apprécier en même temps le rôle que l'habitude et la sélection des variations dites spontanées ont joué dans les modifications qu'ont éprouvées les aptitudes mentales de nos animaux domestiques. On sait combien ils varient sous ce rapport. Certains chats, par exemple, attaquent naturellement les rats, d'autres se jettent sur les souris, et ces caractères sont héréditaires. Un chat, selon M. St. John, rapportait toujours à la maison du gibier à plumes, un autre des lièvres et des lapins, un troisième chassait dans les terrains marécageux et attrapait presque chaque nuit quelques bécassines. On pourrait citer un grand nombre de cas curieux et authentiques indiquant diverses nuances de caractère et de goût, ainsi que des habitudes bizarres en rapport avec certaines dispositions de temps ou de lieu et devenues héréditaires. Mais examinons les différentes races de chiens. On sait que les jeunes chiens couchants tombent souvent en arrêt et appuient les autres chiens la première fois qu'on les mène à la chasse. J'en ai moi-même observé un exemple très frappant. La faculté de rapporter le gibier est aussi héréditaire à un certain degré, ainsi que la tendance chez le chien de berger à courir autour du troupeau et non à la rencontre des moutons. Je ne vois point en quoi ces actes, que les jeunes chiens sans expérience exécutent tous de la même manière, évidemment avec beaucoup de plaisir et sans en comprendre le but, car le jeune chien d'arrêt ne peut pas plus savoir qu'il arrête pour aider son maître que le papillon blanc ne sait pourquoi il pond ses œufs sur une feuille de chou. Je ne vois point, dis-je, en quoi ces actes diffèrent essentiellement des vrais instincts. Si nous voyons un jeune loup non dressé s'arrêter et demeurer immobile comme une statue, dès qu'il évente sa proie, puis s'avancer lentement avec une démarche toute particulière, si nous voyons une autre espèce de loup se mettre à courir autour d'un troupeau de daims de manière à le conduire vers un point déterminé, nous considérerions sans aucun doute ces actes comme instinctifs. Les instincts domestiques, comme on peut les appeler, sont certainement moins stables que les instincts naturels. Ils ont subi, en effet, l'influence d'une sélection bien moins rigoureuse. Ils ont été transmis pendant une période de bien plus courte durée et dans des conditions ambiantes bien moins fixes. Les croisements entre diverses races de chiens prouvent à quel degré les instincts, les habitudes ou le caractère acquis en domesticité sont héréditaires et quel singulier mélange en résulte. Ainsi, on sait que le croisement avec un bulldog a influencé pendant plusieurs générations le courage et la ténacité du lévrier. Le croisement avec un lévrier communique à toute une famille de chiens de berger la tendance à chasser le lièvre. Les instincts domestiques soumis ainsi à l'épreuve du croisement ressemblent aux instincts naturels qui se confondent aussi d'une manière bizarre et persistent pendant longtemps dans la ligne de descendance. Le roi, par exemple, parle d'un chien qui avait un loup pour bisaïeul. On ne remarquait plus chez lui qu'une seule trace de sa sauvage parenté. Il ne venait jamais en ligne droite vers son maître lorsque celui-ci l'appelait. On a souvent dit que les instincts domestiques n'étaient que des dispositions devenues héréditaires à la suite d'habitudes imposées et longtemps soutenues. Mais cela n'est pas exact. Personne n'aurait jamais songé, et probablement personne n'y serait jamais parvenu, à apprendre à un pigeon à faire la culbute, acte que j'ai vu exécuté par de jeunes oiseaux qui n'avaient jamais aperçu un pigeon culbutant. Nous pouvons croire qu'un individu a été doué d'une tendance à prendre cette étrange habitude et que, par la sélection continue des meilleurs culbutants dans chaque génération successive, cette tendance s'est développée pour en arriver au point où elle en est aujourd'hui. Les culbutants des environs de Glasgow, à ce que m'apprend M. Brent, en sont arrivés à ne pouvoir s'élever de 18 pouces au-dessus du sol sans faire la culbute. On peut mettre en doute qu'on n'eût jamais songé à dresser les chiens à tomber en arrêt, si un de ces animaux n'avait pas montré naturellement une tendance à le faire. On sait que cette tendance se présente quelquefois naturellement, et j'ai eu moi-même occasion de l'observer chez un terrier de race pure. L'acte de tomber en arrêt n'est probablement qu'une exagération de la courte pause que fait l'animal qui se ramasse pour s'élancer sur sa proie. La première tendance à l'arrêt, une fois manifestée, la sélection méthodique, jointe aux effets héréditaires d'un dressage sévère dans chaque génération successive, a dû rapidement compléter l'œuvre. La sélection inconsciente concourt d'ailleurs toujours au résultat, car, sans se préoccuper autrement de l'amélioration de la race, chacun cherche naturellement à se procurer les chiens qui chassent le mieux et qui, par conséquent, tombent le mieux en arrêt. L'habitude peut, d'autre part, avoir suffi dans quelques cas. Il est peu d'animaux plus difficiles à apprivoiser que les jeunes lapins sauvages. Aucun animal, au contraire, ne s'apprivoise plus facilement que le jeune lapin domestique. Or, comme je ne puis supposer que la facilité à apprivoiser les jeunes lapins domestiques ait jamais fait l'objet d'une sélection spéciale, il faut bien attribuer la plus grande partie de cette transformation héréditaire d'un état sauvage excessif à l'extrême opposé, à l'habitude et à une captivité prolongée. Les instincts naturels se perdent à l'état domestique. Certaines races de poules, par exemple, ont perdu l'habitude de couver leurs œufs et refusent même de le faire. Nous sommes si familiarisés avec nos animaux domestiques que nous ne voyons pas à quel point leurs facultés mentales se sont modifiées, et cela d'une manière permanente. On ne peut douter que l'affection pour l'homme ne soit devenue instinctive chez le chien. Les loups, les chacals, les renards et les diverses espèces félines, même apprivoisées, sont toujours enclins à attaquer les poules, les moutons et les porcs. Cette tendance est incurable chez les chiens, qui ont été importés très jeunes de pays comme l'Australie et la Terre de Feu, où les sauvages ne possèdent aucune de ces espèces d'animaux domestiques. D'autre part, il est bien rare que nous soyons obligés d'apprendre à nos chiens, même tout jeunes, à ne pas attaquer les moutons, les porcs ou les volailles. Il n'est pas douteux que cela peut quelquefois leur arriver, mais on les corrige, et s'ils continuent, on les détruit, de telle sorte que l'habitude ainsi qu'une certaine sélection ont concouru à civiliser nos chiens par hérédité. D'autre part, l'habitude a entièrement fait perdre aux petits poulets cette terreur du chien et du chat qui était sans aucun doute primitivement instinctive chez eux. Le capitaine Hatton m'apprend en effet que les jeunes poulets de la souche parente, le Gallus bonkiva, lors même qu'ils sont couvés dans l'Inde par une poule domestique, sont d'abord d'une sauvagerie extrême. Il en est de même des jeunes faisans élevés en Angleterre par une poule domestique. Ce n'est pas que les poulets aient perdu toute crainte, mais seulement la crainte des chiens et des chats. Car si la poule donne le signal du danger, ils la quittent aussitôt, les jeunes dindonaux surtout, et vont chercher un refuge dans les forêts du voisinage. Circonstance dont le but évident est de permettre à la mère de s'envoler, comme cela se voit chez beaucoup d'oiseaux terrestres sauvages. Cet instinct, conservé par les poulets, est d'ailleurs inutile à l'état domestique, la poule ayant, par défaut d'usage, perdu presque toute aptitude au vol. nous pouvons conclure de là que les animaux réduits en domesticité ont perdu certains instincts naturels et en ont acquis certains autres, tant par l'habitude que par la sélection et l'accumulation qu'a faite l'homme pendant des générations successives de diverses dispositions spéciales et mentales qui ont apparu d'abord sous influence de causes que, dans notre ignorance, nous appelons accidentelles. Dans quelques cas, des habitudes forcées ont seules suffi pour provoquer des modifications mentales devenues héréditaires. Dans d'autres, ces habitudes ne sont entrées pour rien dans le résultat, dû alors aux effets de la sélection, tant méthodique qu'inconsciente. Mais il est probable que, dans la plupart des cas, les deux causes ont dû agir simultanément. Instincts spéciaux. C'est en étudiant quelques cas particuliers que nous arriverons à comprendre comment, à l'état de nature, la sélection a pu modifier les instincts. Je n'en signalerai ici que trois. L'instinct qui pousse le coucou à pondre ses œufs dans les nids d'autres oiseaux, l'instinct qui pousse certaines fourmis à se procurer des esclaves, et la faculté qu'a l'abeille de construire ses cellules. Tous les naturalistes s'accordent avec raison pour regarder ces deux derniers instincts comme les plus merveilleux que l'on connaisse. Instinct du coucou. Quelques naturalistes supposent que la cause immédiate de l'instinct du coucou est que la femelle ne pond ses œufs qu'à des intervalles de 2 ou 3 jours, de sorte que, si elle devait construire son nid et couver elle-même, ses premiers œufs resteraient quelque temps abandonnés, ou bien il y aurait dans le nid des œufs et des oiseaux de différents âges. Dans ce cas, la durée de la ponte et de l'éclosion serait trop longue, l'oiseau émigrant de bonne heure, et le mâle seul aurait probablement à pourvoir aux besoins des premiers oiseaux éclos. Mais le coucou américain se trouve dans ces conditions, car cet oiseau fait lui-même son nid, et on y rencontre en même temps des petits oiseaux et des œufs qui ne sont pas éclos. On a tour à tour affirmé et nié le fait que le coucou américain dépose occasionnellement ses œufs dans les nids des autres oiseaux. Mais je tiens du docteur Murrell de l'Iowa, qu'il a une fois trouvé dans l'Illinois, dans le nid d'un jet bleu, Garrulus cristatus, un jeune coucou et un jeune jet. Tous deux avaient déjà assez de plumes pour qu'on pût les reconnaître facilement et sans crainte de se tromper. Je pourrais citer aussi plusieurs cas d'oiseaux d'espèces très différentes qui déposent quelquefois leurs œufs dans les nids d'autres oiseaux. Or, supposons que l'ancêtre du coucou d'Europe ait eu les habitudes de l'espèce américaine et qu'il ait parfois pondu un œuf dans un nid étranger. Si cette habitude a pu, soit en lui permettant d'émigrer plus tôt, soit pour toute autre cause être avantageuse à l'oiseau adulte, ou que l'instinct trompé d'une autre espèce ait assuré au jeune coucou de meilleurs soins et une plus grande vigueur que s'il eût été élevé par sa propre mère, obligé de s'occuper à la fois de ses œufs et de petits ayant tous un âge différent, il en sera résulté un avantage tant pour l'oiseau adulte que pour le jeune. L'analogie nous conduit à croire que les petits ainsi élevés ont pu hériter de l'habitude accidentelle et anormale de leur mère, pondre à leur tour leurs œufs dans d'autres nids, et réussir ainsi à mieux élever leur progéniture. Je crois que cette habitude longtemps continuée a fini par amener l'instinct bizarre du coucou. Adolf Müller a récemment constaté que le coucou dépose parfois ses œufs sur le sol nu, les couve et nourrit ses petits. Ce fait étrange et rare paraît évidemment être un cas de retour à l'instinct primitif de nidification depuis longtemps perdu. On a objecté que je n'avais pas observé chez le coucou d'autres instincts corrélatifs et d'autres adaptations de structure que l'on regarde comme étant en coordination nécessaire. N'ayant jusqu'à présent aucun fait pour nous guider, toute spéculation sur un instinct connu seulement chez une seule espèce eût été inutile. Les instincts du coucou européen et du coucou américain, non parasites, étaient, jusque tout récemment, les seuls connus. Mais actuellement, nous avons, grâce aux observations de M. Ramsay, quelques détails sur 3 espèces australiennes qui pondent aussi dans le nid d'autres oiseaux. 3 points principaux sont à considérer dans l'instinct du coucou. Premièrement, que, à de rares exceptions près, le coucou ne dépose qu'un seul œuf dans un nid, de manière à ce que le jeune, gros et vorace, qui doit en sortir, reçoive une nourriture abondante. Secondement, que les œufs sont remarquablement petits, et à peu près comme ceux de l'alouette, oiseau moins gros d'un quart que le coucou. Le coucou américain non parasite pond des œufs ayant une grosseur normale. Nous pouvons donc conclure que ces petites dimensions de l'œuf sont un véritable cas d'adaptation. Troisièmement, peu après sa naissance, le jeune coucou a l'instinct, la force et une conformation du dos qui lui permet d'expulser hors du nid ses frères nourriciers, qui périssent de faim et de froid. On était jusqu'à soutenir que c'était là une sage et bienfaisante disposition qui, tout en assurant une nourriture abondante au jeune coucou, provoquait la mort de ses frères nourriciers avant qu'ils n'eussent acquis trop de sensibilité. Passons aux espèces australiennes. Ces oiseaux ne déposent généralement qu'un œuf dans un même nid. Il n'est pas rare cependant d'en trouver deux et même trois dans un nid. Les œufs du coucou bronzé varient beaucoup en grosseur. Ils ont de 8 à 10 lignes de longueur. Or, s'il y avait eu avantage pour cette espèce à pondre des œufs encore plus petits, soit pour tromper les parents nourriciers, soit plus probablement pour qu'ils éclosent plus vite, car on assure qu'il y a un rapport entre la grosseur de l'œuf et la durée de l'incubation, on peut aisément admettre qu'il aurait pu se former une race ou espèce dont les œufs auraient été de plus en plus petits, car ces œufs auraient eu plus de chances de tourner à bien. M. Ramsay a remarqué que deux coucous australiens, lorsqu'ils pondent dans un nid ouvert, choisissent de préférence ceux qui contiennent déjà des œufs de la même couleur que les leurs. Il y a aussi, chez l'espèce européenne, une tendance vers un instinct semblable, mais elle s'en écarte souvent, car on rencontre des œufs ternes et grisâtres au milieu des œufs bleus verdâtres brillants de la fauvette. Si notre coucou avait invariablement fait preuve de l'instinct en question, on l'aurait certainement ajouté à tous ceux qu'il a dû, prétend-on, nécessairement acquérir ensemble. La couleur des œufs du coucou bronzé australien, selon M. Ramsay, varie extraordinairement, de sorte qu'à cet égard, comme pour la grosseur, la sélection naturelle aurait certainement pu choisir et fixer toute variation avantageuse. Le jeune coucou européen chasse ordinairement du nid, 3 jours après sa naissance, les petits de ses parents nourriciers. Comme il est encore bien faible à cet âge, M. Gould était autrefois disposé à croire que les parents se chargeraient eux-mêmes de chasser leurs petits. Mais il a dû changer d'opinion à ce sujet, car on a observé un jeune coucou, encore aveugle, ayant à peine la force de soulever la tête, en train d'expulser du nid ses frères nourriciers. L'observateur replaça un de ses petits dans le nid, et le coucou le rejeta dehors. Comment cet étrange et odieux instinct a-t-il pu se produire? S'il est très important pour le jeune coucou, et c'est probablement le cas, de recevoir après sa naissance le plus de nourriture possible, je ne vois pas grande difficulté à admettre que, pendant de nombreuses générations successives, il ait graduellement acquis le désir aveugle, la force et la conformation la plus propre pour expulser ses compagnons. En effet, les jeunes coucous doués de cette habitude et de cette conformation sont plus certains de réussir. Il se peut que le premier pas vers l'acquisition de cet instinct n'ait été qu'une disposition turbulente du jeune coucou à un âge un peu plus avancé, puis cette habitude s'est développée et s'est transmise par hérédité à un âge beaucoup plus tendre. Cela ne me paraît pas plus difficile à admettre que l'instinct qui porte les jeunes oiseaux encore dans l'œuf à briser la coquille qui les enveloppe ou que la production chez les jeunes serpents, ainsi que l'a remarqué Owen, d'une dent acérée temporaire placée à la mâchoire supérieure qui leur permet de se frayer un passage au travers de l'enveloppe coriace de l'œuf. Si chaque partie du corps est susceptible de variations individuelles à tout âge, et que ces variations tentent à devenir héréditaires à l'âge correspondant, fait que l'on ne peut contester, les instincts et la conformation peuvent se modifier lentement, aussi bien chez les petits que chez les adultes. Ce sont là deux propositions qui sont à la base de la théorie de la sélection naturelle et qui doivent subsister ou tomber avec elle. Quelques espèces du genre Molothrus, genre très distinct d'oiseaux américains voisins de nos étourneaux, ont des habitudes parasites semblables à celles du coucou. Ces espèces présentent des gradations intéressantes dans la perfection de leur instinct. M. Hudson, excellent observateur, a constaté que les Molothrus badius des deux sexes vivent quelquefois en bande dans la promiscuité la plus absolue, ou qu'ils s'accouplent quelquefois. Tantôt ils se construisent un nid particulier, tantôt ils s'emparent de celui d'un autre oiseau en jetant dehors la couvée qu'il contient, et y pondent leurs œufs, ou construisent bizarrement à son sommet un nid à leur usage. Ils couvent ordinairement leurs œufs et élèvent leurs jeunes. Mais M. Hudson dit qu'à l'occasion, ils sont probablement parasites, car il a observé des jeunes de cette espèce accompagnant des oiseaux adultes d'une autre espèce et criant pour que ceux-ci leur donnent des aliments. Les habitudes parasites d'une autre espèce de Molothrus, le Molothrus bonariensis, sont beaucoup plus développées, sans être cependant parfaites. Celui-ci, autant qu'on peut les avoir, pond invariablement dans des nids étrangers. Fait curieux, plusieurs se réunissent quelquefois pour commencer la construction d'un nid irrégulier et mal conditionné, placé dans des situations singulièrement mal choisies, sur les feuilles d'un grand chardon par exemple. Toutefois, autant que M. Hudson a pu s'en assurer, ils n'achèvent jamais leur nid. Ils pondent souvent un si grand nombre d'œufs, de 15 à 20, dans le même nid étranger, qu'il n'en peut éclore qu'un petit nombre. Ils ont de plus l'habitude extraordinaire de crever à coups de bec les œufs qu'ils trouvent dans les nids étrangers, sans épargner même ceux de leur propre espèce. Les femelles déposent aussi sur le sol beaucoup d'œufs qui se trouvent perdus. Une troisième espèce, le Molothrus pecoris de l'Amérique du Nord, a acquis des instincts aussi parfaits que ceux du coucou en ce qu'il ne pond pas plus d'un œuf dans un nid étranger, ce qui assure l'élevage certain du jeune oiseau. M. Hudson, qui est un grand adversaire de l'évolution, a été cependant si frappé de l'imperfection des instincts du Molothrus bonariensis qu'il se demande en citant mes paroles. Faut-il considérer ces habitudes non comme des instincts créés de toutes pièces dont a été doué l'animal, mais comme de faibles conséquences d'une loi générale, à savoir la transition. Différents oiseaux, comme nous l'avons déjà fait remarquer, déposent accidentellement leurs œufs dans les nids d'autres oiseaux. Cette habitude n'est pas très rare chez les gallinacés et explique l'instinct singulier qui s'observe chez l'autruche. Plusieurs autruches femelles se réunissent pour pondre d'abord dans un nid, puis dans un autre, quelques œufs qui sont ensuite couvés par les mâles. Cet instinct provient peut-être de ce que les femelles pondent un grand nombre d'œufs, mais comme le coucou à 2 ou 3 jours d'intervalle. Chez l'autruche américaine toutefois, comme chez le Molothrus bonariensis, l'instinct n'est pas encore arrivé à un haut degré de perfection, car l'autruche disperse ses œufs çà et là en grand nombre dans la plaine, au point que pendant une journée de chasse, j'ai ramassé jusqu'à 20 de ses œufs perdus et gaspillés. Il y a des abeilles parasites qui pondent régulièrement leurs œufs dans les nids d'autres abeilles. Ce cas est encore plus remarquable que celui du coucou, car chez ces abeilles, la conformation aussi bien que l'instinct s'est modifiée pour se mettre en rapport avec les habitudes parasites. Elles ne possèdent pas, en effet, l'appareil collecteur de pollen qui leur serait indispensable si elles avaient à récolter et à amasser des aliments pour leurs petits. Quelques espèces de sphégides, insectes qui ressemblent aux guêpes, vivent de même en parasites sur d'autres espèces. M. Fabre a récemment publié des observations qui nous autorisent à croire que, bien que le Tachytes nigra creuse ordinairement son propre terrier et l'emplisse d'insectes paralysés destinés à nourrir ses larves, il devient parasite toutes les fois qu'il rencontre un terrier déjà creusé et approvisionné par une autre guêpe et s'en empare. Dans ce cas, comme dans celui du Molothrus et du coucou, je ne vois aucune difficulté à ce que la sélection naturelle puisse rendre permanente une habitude accidentelle si elle est avantageuse pour l'espèce et s'il n'en résulte pas l'extinction de l'insecte dont on prend traîtreusement le nid et les provisions. Instinct esclavagiste des fourmis. Ce remarquable instinct fut d'abord découvert chez la Formica, Polyergue, Rufescens, par Pierre Hubert, observateur plus habile peut-être encore que son illustre père. Ces fourmis dépendent si absolument de leurs esclaves que, sans leur aide, l'espèce s'éteindrait certainement dans l'espace d'une seule année. Les mâles et les femelles fécondes ne travaillent pas. Les ouvrières ou femelles stériles, très énergiques et très courageuses quand il s'agit de capturer des esclaves, ne font aucun autre ouvrage. Elles sont incapables de construire leur nid ou de nourrir leurs larves. Lorsque le vieux nid se trouve insuffisant et que les fourmis doivent le quitter, ce sont les esclaves qui décident l'émigration. Elles transportent même leur maître entre leurs mandibules. Ces derniers sont complètement impuissants. Hubert en enferma une 30aine sans esclaves, mais abondamment pourvus de leur aliment de prédilection, outre des larves et des nymphes pour les stimuler au travail. Ils restèrent inactifs, et ne pouvant même pas se nourrir eux-mêmes, la plupart périrent de faim. Hubert introduisit alors au milieu d'eux une seule esclave, Formica Fusca, qui se mit aussitôt à l'ouvrage, sauva les survivants en leur donnant des aliments, construisit quelques cellules, prit soin des larves et mit tout en ordre. Peut-on concevoir quelque chose de plus extraordinaire que ces faits bien constatés? Si nous ne connaissions aucune autre espèce de fourmi douée d'instinct esclavagiste, il serait inutile de spéculer sur l'origine et le perfectionnement d'un instinct aussi merveilleux. Pierre Hubert fut encore le premier à observer qu'une autre espèce, la Formica sanguinea, se procure aussi des esclaves. Cette espèce, qui se rencontre dans les parties méridionales de l'Angleterre, a fait l'objet des études de M. F. Smith du British Museum, auquel je dois de nombreux renseignements sur ce sujet et sur quelques autres. Plein de confiance dans les affirmations de Hubert et de M. Smith, je n'abordais toutefois l'étude de cette question qu'avec des dispositions sceptiques bien excusables, puisqu'il s'agissait de vérifier la réalité d'un instinct aussi extraordinaire. J'entrerai donc dans quelques détails sur les observations que j'ai pu faire à cet égard. J'ai ouvert 14 fourmilières de Formica sanguinea, dans lesquelles j'ai toujours trouvé quelques esclaves appartenant à l'espèce Formica fusca. Les mâles et les femelles fécondes de cette dernière espèce ne se trouvent que dans leur propre fourmilière, mais jamais dans celle de la Formica sanguinea. Les esclaves sont noires et moitié plus petites que leurs maîtres qui sont rouges. Le contraste est donc frappant. Lorsqu'on dérange légèrement le nid, les esclaves sortent ordinairement et témoignent, ainsi que leurs maîtres, d'une vive agitation pour défendre la cité. Si la perturbation est très grande et que les larves et les nymphes soient exposées, les esclaves se mettent énergiquement à l'œuvre et aident leurs maîtres à les emporter, à les mettre en sûreté. Il est donc évident que les fourmis esclaves se sentent tout à fait chez elles. Pendant 3 années successives, en juin et en juillet, j'ai observé pendant des heures entières plusieurs fourmilières dans les comtés de Surrey et de Sussex, et je n'ai jamais vu une seule fourmi esclave y entrer ou en sortir. Comme à cette époque les esclaves sont très peu nombreuses, je pensais qu'il pouvait en être autrement lorsqu'elles sont plus abondantes. Mais M. Smith, qui a observé ces fourmilières à différentes heures pendant les mois de mai, juin et août, dans les comtés de Surrey et de Hampshire, m'affirme que, même en août, alors que le nombre des esclaves est très considérable, il n'en a jamais vu une seule entrer ou sortir du nid. Il les considère donc comme des esclaves rigoureusement domestiques. D'autre part, on voit les maîtres apporter constamment à la fourmilière des matériaux de construction et des provisions de toute espèce. En 1860, au mois de juillet, je découvris cependant une communauté possédant un nombre inusité d'esclaves, et j'en remarquai quelques-unes qui quittaient le nid en compagnie de leur maître pour se diriger avec eux vers un grand pin écossais éloigné de 25 mètres environ, dont ils firent tous l'ascension, probablement en quête de pucerons ou de coccus. D'après Hubert, qui a eu de nombreuses occasions de les observer en Suisse, les esclaves travaillent habituellement avec les maîtres à la construction de la fourmilière, mais ce sont elles qui, le matin, ouvrent les portes et qui les ferment le soir. Il affirme que leur principale fonction est de chercher des pucerons. Cette différence entre les habitudes ordinaires des maîtres et des esclaves dans les deux pays provient probablement de ce qu'en Suisse, les esclaves sont capturés en plus grand nombre qu'en Angleterre. J'eus un jour la bonne fortune d'assister à une migration de la Formica sanguinea d'un nid à un autre. C'était un spectacle des plus intéressants que de voir les fourmis maîtresses porter avec le plus grand soin leurs esclaves entre leurs mandibules, au lieu de se faire porter par elles, comme dans le cas de la Formica rufescens. Un autre jour, la présence dans le même endroit d'une vingtaine de fourmis esclavagistes qui n'étaient évidemment pas en quête d'aliments attira mon attention. Elles s'approchèrent d'une colonie indépendante de l'espèce qui fourmille les esclaves, Formica fusca, et furent vigoureusement repoussées par ces dernières qui se cramponnaient quelquefois jusqu'à 3 aux pattes des assaillantes. Les Formica sanguinea tuaient sans pitié leurs petits adversaires et emportaient leurs cadavres dans leur nid, qui se trouvait à une trentaine de mètres de distance. Mais elles ne purent pas s'emparer de nymphes pour en faire des esclaves. Je déterrai alors dans une autre fourmilière quelques nymphes de la Formica fusca, que je plaçai sur le sol près du lieu de combat. Elles furent aussitôt saisies et enlevées par les assaillants qui se figurèrent probablement avoir remporté la victoire dans le dernier engagement. Je plaçai en même temps, sur le même point, quelques nymphes d'une autre espèce, la Formica flava, avec quelques parcelles de leur nid auxquelles étaient restées attachées quelques-unes de ces petites fourmis jaunes qui sont quelquefois, bien que rarement, d'après M. Smith, réduites en esclavage. Quoique fort petite, cette espèce est très courageuse et je l'ai vue attaquer d'autres fourmis avec une grande bravoure. Ayant une fois, à ma grande surprise, trouvé une colonie indépendante de Formica flava à l'abri d'une pierre placée sous une fourmilière de Formica sanguinea, espèce esclavagiste, je dérangeais accidentellement les deux nids. Les deux espèces se trouvèrent en présence et je vis les petites fourmis se précipiter avec un courage étonnant sur leurs crosses voisines. Or, j'étais curieux de savoir si les Formica sanguinea distingueraient les nymphes de la Formica fusca, qui est l'espèce dont elles font habituellement leurs esclaves, et celle de la petite et féroce Formica flava, qu'elles ne prennent que rarement. Je pus constater qu'elles les reconnurent immédiatement. Nous avons vu, en effet, qu'elles s'étaient précipitées sur les nymphes de la Formica fusca pour les enlever aussitôt, tandis qu'elles parurent terrifiées en rencontrant les nymphes et même la terre provenant du nid de la Formica flava et s'empressèrent de se sauver. Cependant, au bout d'un quart d'heure, quand les petites fourmis jaunes eurent toutes disparu, les autres reprirent courage et revinrent chercher les nymphes. Un soir que j'examinais une autre colonie de Formica sanguinea, je vis un grand nombre d'individus de cette espèce qui regagnaient leur nid portant des cadavres de Formica fusca, preuve que ce n'était pas une migration, et une quantité de nymphes. J'observai une longue file de fourmis chargées de butin, aboutissant à 40 mètres en arrière à une grosse touffe de bruyère, d'où je vis sortir une dernière Formica sanguinea portant une nymphe. je ne pus pas retrouver sous l'épaisse bruyère le nid dévasté. Il devait cependant être tout près, car je vis deux ou trois formica fusca extrêmement agitées. Une surtout qui, penchée immobile sur un brin de bruyère, tenait entre ses mandibules une nymphe de son espèce et semblait l'image du désespoir gémissant sur son domicile ravagé. Tels sont les faits qui, du reste, n'exigeaient aucune confirmation de ma part sur ce remarquable instinct qu'ont les fourmis de réduire leurs congénères en esclavage. Le contraste entre les habitudes instinctives de la formica sanguinea et celles de la formica rubescens du continent est à remarquer. Cette dernière ne bâtit pas son nid, ne décide même pas de ses migrations, ne cherche ses aliments ni pour elle ni pour ses petits, et ne peut pas même se nourrir. Elle est absolument sous la dépendance de ses nombreux esclaves. La formica sanguinea, d'autre part, a beaucoup moins d'esclaves, et au commencement de l'été, elle en a fort peu. Ce sont les maîtres qui décident du moment et du lieu où un nouveau nid devra être construit, et lorsqu'ils émigrent, ce sont eux qui portent les esclaves. Tant en Suisse qu'en Angleterre, les esclaves paraissent exclusivement chargés de l'entretien des larves. Les maîtres seuls entreprennent les expéditions pour se procurer des esclaves. En Suisse, esclaves et maîtres travaillent ensemble, tant pour se procurer des matériaux du nid que pour l'édifier. Les uns et les autres, mais surtout les esclaves, vont à la recherche des pucerons pour les traire, si l'on peut employer cette expression, et tous recueillent ainsi les aliments nécessaires à la communauté. En Angleterre, les maîtres seuls quittent le nid pour se procurer les matériaux de construction et les aliments indispensables à eux, à leurs esclaves et à leurs larves. Les services que leur rendent leurs esclaves sont donc moins importants dans ce pays qu'ils ne le sont en Suisse. Je ne prétends point faire de conjectures sur l'origine de cet instinct de la formica sanguinea, mais ainsi que je l'ai observé, les fourmis non esclavagistes emportent quelquefois dans leur nid des nymphes d'autres espèces disséminées dans le voisinage. Et il est possible que ces nymphes, emmagasinées dans le principe pour servir d'aliment, aient pu se développer. Il est possible aussi que ces fourmis étrangères, élevées sans intention, obéissant à leurs instincts, aient rempli les fonctions dont elles étaient capables. Si leur présence s'est trouvée être utile à l'espèce qui les avait capturées, s'il est devenu plus avantageux pour celle-ci de se procurer des ouvrières au dehors plutôt que de les procréer, la sélection naturelle a pu développer l'habitude de recueillir des nymphes primitivement destinées à servir de nourriture et l'avoir rendue permanente dans le but bien différent d'en faire des esclaves. Un tel instinct, une fois acquis, fût-ce même à un degré bien moins prononcé qu'il ne l'est chez la formica sanguinea en Angleterre, à laquelle, comme nous l'avons vu, les esclaves rendent beaucoup moins de services qu'ils n'en rendent à la même espèce en Suisse, la sélection naturelle a pu accroître et modifier cet instinct, à condition toutefois que chaque modification ait été avantageuse à l'espèce, et produire enfin une fourmi aussi complètement placée sous la dépendance de ses esclaves que l'est la formica rufescens.